Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour sur les ondes de CFAQ 88.3, puisque, Jérémy, je me tourne vers toi. Il y a eu une rencontre entre diplomates russes et la Syrie.
Ben oui, exactement. Là. Fait que, finalement, on n'aura pas le temps de parler. Je voulais nuancer justement un petit peu la présidence de Trump ces deux premières semaines.
Mais on y reviendra.
Je vais en parler la semaine prochaine, je pense. On va se concentrer sur la rencontre des diplomates russes avec la Syrie. Oui, j'en ai parlé quand même beaucoup dans les dernières semaines avec son ancien nom, c'est Al-Julani. Ahmed Al-Shara, qui a été l'affaire de lance de la chute du régime de Bachar al-Assad. J'avais parlé un petit peu c'était qui cet homme-là. J'avais parlé un petit peu de la montée du djihadisme de l'État islamique petit peu en Syrie, les risques associés à ça. Fait que on replonge un petit peu là-dedans. Donc, le 28 janvier dernier, une délégation de diplomates russes sont arrivés dans une caravane à Damascus avec un objectif clair, jeter les bases pour que la Russie puisse garder ses deux bases militaires en Syrie. Mm-hmm. Ça fait 2 mois que les rebelles ont renversé l'homme fort de Moscou, Bachar al-Assad. Je pense que c'est al-Assad en plus. Bref. Pour garder leur base en Russie, c'est ça, leur base, la Russie doit convaincre en fait la Syrie et ses nouveaux dirigeants.
Ouais.
Ben, c'est ces nouveaux dirigeants-là que la Russie ont bombardé sans impunité pour maintenir le régime Assad en place. Ben, donc c'est ça, ces nouveaux dirigeants-là, c'est entre autres Ahmed Al-Shara, connu auparavant sous le nom de Mohamed Al-Julani, qui a vraiment été le fer de lance, c'est ça, avec le groupe HTC, de la chute du régime de Assad.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça, Ahmed Al-Shara, lui, il a survécu à une décennie de bombardements russes, puis a émergé en tant que nouveau dirigeant par intérim de la Syrie. Surprise, là, vous l'avez sûrement deviné, mais la première conversation entre Damascus et Moscou, depuis près de 14 ans, après plus de 14 ans de guerre civile, n'a pas été concluante.
Mm-hmm.
En revanche, ça marque les débuts des possibles négociations entre la Russie et la Syrie d'après-guerre. On va le rappeler, là, la Syrie, elle est fragmentée, elle est blessée, elle est meurtrie par près de 14 ans de guerre civile. Puis elle peut pas se permettre de, excusez-moi l'expression, là, mais de snobber des pays qui vont faire potentiellement partie de la reconstruction de la Syrie. Ils ont besoin d'aide, la Syrie.
Ouais.
Cette rencontre démontre les dynamiques qui entourent un petit peu le marchandage géopolitique qui a débuté en fait au lendemain de la guerre civile syrienne. Puis qu'il y a, entre autres, le potentiel de retravailler ce même paysage géopolitique-là au Moyen-Orient. Les puissances mondiales, ben, ils disputent l'influence alors que le pouvoir un peu chambranlant de la Syrie tente de gagner en légitimité et en sécurité. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que qu'ils essaient de trouver un petit peu de légitimité et de sécurité. Et tout ça au travers, c'est ça, d'un œil de pierre puis du real politics.
Mm-hmm.
Donc on voit un petit peu la sagesse de Ahmed Al-Shara là, qui comprend qu'il peut pas juste faire son dirigeant frustré de comme moi je vais pas parler à la Russie parce qu'ils m'ont bombardé. Lui, il est maintenant à la tête d'un pays, il a besoin de faire des concessions. Il va être obligé de faire des concessions, puis pour l'instant, il semble prêt à le faire, tu sais.
Ouais.
Ou du moins, il est à l'écoute. C'est ça qui est demandé de lui pour l'instant. Puis quand même, tu sais, c'est malgré le côté un peu chambranlant, ça, de la Syrie, c'est les Russes qui ont été demandés de faire des concessions. En fait, M. Al-Shara, il a mis l'emphase sur le fait des nouvelles relations, qui les nouvelles relations devraient s'adresser aux erreurs du passé. Puis il a demandé des compensations pour la destruction causée par la Russie en Syrie. Il a aussi demandé que Moscou donne M. Al-Assad et ses premiers associés pour faire face à la justice. Plusieurs spécialistes ont entre autres explicité l'idée que la Syrie est désespérée pour un besoin de légitimité de support international et qu'un allié faisant partie du Conseil permanent de sécurité de l'ONU allait vraiment les aider.
Ouais.
C'est l'influence qu'ils ont besoin à l'international pour reconnaître entre autres que la Syrie n'est pas un État un État félon, un État rebelle, mais bel et bien un pays à part entière. Puis ils ont besoin de reconnaissance internationale pour ça. Donc, entre autres. Puis la Russie, elle, souhaite maintenir, en fait, sa base navale dans la Méditerranée à Tartus et aussi maintenir le... Je vais même pas essayer de prononcer, ça s'appelle... Non, je vais pas essayer. Leur base d'aviation à l'extérieur de l'Attaka qu'ils utilisent pour leur opération, entre autres, en Afrique. Là, mm-hmm. comme on dit ça, une halte. Donc, ils passent ouais. par cette base d'aviation-là pour ensuite aller en Afrique à une base de ravitaillement. Les deux, c'est ça, maintiennent un lien pour la simple et bonne raison qu'ils ont des intérêts communs. Mais tu sais, pour vous donner une idée, c'est la même chose pour les Américains. Al-Shara, c'est un ancien combattant d'Al-Qaïda, puis qui a passé du temps en prison en Irak, emprisonné par les forces américaines avec une prime de 10 millions.
Okay.
Donc, mais là, c'est ça. Al-Shara essaye de se distancer. Ben, je l'avais dit dans la dernière chronique, justement, Al-Shara, il essaie de se séparer, justement, de son passé d'Al-Qaïda. En revanche, dans le HTC, il y a un groupe, je me souviens plus du nom exactement, qui est considéré comme étant une ancienne entité d'Al-Qaïda, ce qui fait que, de facto, c'est le HTC considéré comme un groupe terroriste par, entre autres, les États-Unis ouais. et la France. Toutefois, c'est maintenant le pouvoir en place, le HTC, tu sais, c'est le pouvoir en place en Syrie, et c'est l'autorité du pays. Il va donc y avoir des négociations avec un... Bien que des fois, ils sont pas forcément officiels.
Ouais.
Il y a des diplomates sur place. Ils parlent. Il y a une relation. Il y a des échanges qui se font. Et il y a pas aucun pays occidentaux qui va, justement, je reprends l'expression, va snobber la Syrie qui est, et faire de trouver un super bel allié mm-hmm. dans les pays du Levant, en Moyen-Orient. Donc, c'est ce qui conclut pas mal cette chronique-là. Donc, encore une fois, on regarde qu'est-ce qui se passe, puis c'est super intéressant, tu sais, on est soulagé de la fin du régime Assad, mais on regarde un œil tendu quand même, voir qu'est-ce qui va se passer justement en Syrie, parce qu'il y a encore, je le répète, il y a encore les Kurdes qui sont encore présents dans le nord de la Syrie, c'est un problème qui est pas réglé, les Kurdes qui veulent créer un État en Syrie, en Turquie et, je me souviens jamais, il y a un autre pays qui m'échappe... Mais bref, ils veulent créer le Kurdistan, l'Irak. Donc une partie, ils veulent créer une partie de un pays qui va embarquer aussi sur l'Iran et l'Irak aussi. Donc
quand même.
Ouais, c'est ça. Mais c'est pas pour rien que les Turcs les considèrent comme un groupe terroriste. Puis les Kurdes, ils sont j'en avais parlé. Ils détiennent plusieurs anciens combattants de l'État islamique dans des prisons de fortune. Puis les Kurdes sont techniquement sur le territoire de la Syrie en ce moment. Ils occupent une partie du territoire. Puis on se le rappelle, là, une des nécessités pour être considéré un pays, c'est l'intégrité territoriale. Là, techniquement, la Syrie n'a pas le contrôle sur tout son territoire. Ouais, ouais. Ben, mettons, Al-Shara. Al-Shara n'a pas le contrôle, la mainmise sur la totalité de son territoire. Il peut pas vraiment pousser les Kurdes à l'extérieur de son pays. Les Kurdes sont, entre autres, ce qui tient l'État islamique loin dans les déserts. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs... la géopolitique de la Syrie en ce moment est particulièrement intéressante. Puis on dirait qu'il y a beaucoup de pays qui regardent avec un œil très stressé sur qu'est-ce qui va se passer.
Ah, c'est sûr.
Donc, on continue de regarder ça. Mais pour l'instant, Al-Shara, il fait ce qu'il a à faire à la tête de son pays.
Voilà, Bachar al-Assad, qui était en poste depuis 24 ans, sa première élection, ou en tout cas sa première désignation était en juillet 2000. Et voilà, il a été mis à la porte le 8 décembre 2024.
C'est pas 50 ans que le... Un peu plus de 50 ans que la famille Assad... détient le pouvoir.
Oui, exactement. Avant lui, c'est plus de 50 ans. C'était un Al-Assad aussi qui était à la tête. Donc.
Puis on le rappelle, c'est toute sa famille qui était dans les plus hautes sphères du pays.
Les sphères importantes, oui.
T'sais, les hautes sphères du pays, des généraux de l'armée, c'est un Assad. Donc, c'était totalement une dictature qui avait, on le rappelle, fait des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc là, on me fait signe, il faut quitter. On a une entrevue tout de suite après.
Oui, donc courte pause musicale et on ira parler à nos deuxièmes invités pour, ici sur les ondes SFA 88.3.